Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons pour ce culte, pour ce temps d'adoration et ce temps de partage de ta parole. Seigneur, viens encore, Saint-Esprit, toucher nos cœurs ce matin. Viens encore déposer, Seigneur, tes paroles, déposer, Seigneur, ton amour dans les cœurs. Merci pour cette grâce que nous avons de nous retrouver pour te célébrer, Seigneur. Sois le bienvenu. Amen. Alors, je vais commencer avec ce titre, c'est l'Esprit qui vivifie. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo, en fait j'aime bien les vidéos qui parlent de science, qui parlent un petit peu de tout ce domaine-là, des avancées qu'il y a. Et j'ai reçu une vidéo publiée par France Culture, hein, d'une professeure d'anthropologie génétique. Donc c'est quand même une personne voilà, assez élevée dans la science. Et dans cette vidéo, cette dame, elle commence par affirmer de façon catégorique que non, l'homme ne descend pas du singe. Et mes feuilles sont descendues. L'homme ne descend pas du singe. Elle l'affirme 3-4 fois. Non, l'homme ne descend pas du singe. Je lui dis, c'est super. Et puis elle dit, oui, je suis pas la seule. Il y a plein de mes collègues qui le disent aussi. On veut vraiment mettre à terre cette fausse idée que l'homme descend du singe. Alors franchement, je me dis vraiment super, ça bouge en France, il y a les scientifiques qui commencent à s'affirmer, et il y a, voilà, c'est même publié sur France Culture, hein, c'est une radio nationale. Ils me disent, ouais, c'est super, quoi. Mais mon enthousiasme a été de courte durée, en fait. Parce que cette dame, ouais, je vous ai mis sa photo puisque c'est mis elle-même sur Internet. Cette dame va continuer, elle va dire, non, l'homme ne descend pas du singe, tout simplement parce qu'il en est un de singe. Alors là, bon, ça m'a refroidi un petit peu quand même. Je me dis, Denis, t'es bien naïf quand même, hein. Et encore du boulot dans notre pays. Et donc j'étais déçu, bon, j'ai quand même écouté la suite, ça faisait 4 minutes, bon, je me dis, je vais écouter ce qu'elle raconte. Donc, cette scientifique, elle continue en disant, oui, vous voyez, l'homme est en fait un cousin, il ne descend pas du singe, c'est une famille de singes, pareil que les chimpanzés ou les autres. Et puis, l'homme n'a pas de spécificité, puisque les singes font des outils, les hommes font des outils, c'est la même chose. Et puis, elle dit quand même, ah, il y a quand même la bipédie, parce que les hommes marchent debout. Effectivement, on marche pas à quatre pattes, comme les singes. Les singes peuvent se tenir debout, mais pas longtemps. Nous, on marche debout. Mais elle dit ça, c'est dû à l'évolution du pied de l'homme. Donc, elle finit avec cette phrase que j'ai trouvée magistrale. C'est finalement les pieds qui font l'humain. J'ai dit, là... Je veux pas me moquer de cette dame parce que on m'aurait dit ça il y a plus de 20 ans, j'aurais accepté ça. Franchement, j'aurais cru, hein. Donc je veux pas me moquer d'elle, plutôt prier pour elle. Mais je ne sais pas vous, mais moi aujourd'hui, je peux vous dire que ce n'est pas mes pieds qui font de moi un humain. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Et sans être scientifique, on peut constater que la théorie de l'évolution, elle ne trouve pas en fait ses bases dans la science. Mais c'est une vision matérialiste de l'homme, qui nie toute dimension spirituelle, et qui laisse l'humanité dans un vide total. Vous savez, sans Dieu, la vie n'a aucun sens. Si on enlève Dieu, notre vie n'a plus de sens. Et on tombe dans des choses comme ça. Comment une personne, un enfant, peut se construire en écoutant ces choses-là? Comment elle peut construire sa vie là-dessus? Et vous savez, cette pensée ne date pas de maintenant, elle a été promulguée dans surtout notre société occidentale. Je pense que nos frères et sœurs africains, ils ont peut-être été épargnés par ces bêtises-là. Mais nous, on a été en plein dedans, on a été élevés là-dedans, on nous a enseigné ça dès notre jeunesse. Et elle vient de loin, des siècles et des siècles, enfin, Voltaire, déjà Freud, qui affirmait que l'homme est un animal comme les autres. Et puis, depuis, après, ça va subtilement s'infuser dans la société jusqu'à Darwin qui va s'appuyer sur cette pensée-là pour en tirer sa théorie. Alors effectivement, si on regarde comme ça, l'homme, il a des similitudes avec les animaux. On a un cœur, il y a des animaux qui ont un cœur, il y a les poumons, il y a le système sanguin, il y a des choses qui se ressemblent. Il y a l'ADN, il y a des membres aussi qui se ressemblent avec les animaux. Mais en fait, ça n'a rien d'étonnant pour nous chrétiens, puisqu'on a le même créateur. Donc il n'y en a pas qui vont être faites dans une matière spéciale et d'autres dans une autre matière. On est chair. On sort du même créateur. Donc ça, c'est normal. C'est normal qu'on ressemble sur certains points. Mais il y a également des différences énormes, des spécificités qui sont uniques à l'homme. Alors ce n'est pas le thème de mon message ce matin, mais je vais quand même vous en mettre quelques-unes, juste si vous avez parfois à discuter ou si vous doutez encore que vous êtes différent des animaux. Je vous ai mis quelques points vraiment qui sont intéressants. Donc on a vu tout à l'heure, je vais passer très vite. Hein. La bipédie, donc l'homme qui marche debout, le langage articulé, oui, bah oui, on a plus de moyens de faire des sons que les animaux, on fait plus de sons que les animaux, on a un langage qui est plus évolué, bien sûr. On a les faiblesses naturelles, vous savez que l'homme, bah, par rapport aux autres animaux, il est beaucoup moins armé, hein. On n'a pas de griffes, on n'a pas de fourrure, on a besoin d'un toit, on a besoin de se chauffer, on a besoin de beaucoup de choses. Et quand on regarde un bébé humain, c'est ce qu'il y a de plus fragile sur cette terre. Un bébé humain, avant d'être autonome, il se passe beaucoup d'années. La plupart des animaux, ils marchent très vite. Les poulains, ils se mettent vite sur leurs jambes. Tandis que le bébé humain, lui, doit être accompagné. Il y a vraiment une faiblesse. Et pourtant, on est toujours là. On pourrait se dire, si c'était la loi du plus fort, s'il n'y avait pas Dieu qui nous tenait, on serait plus là. Il y a aussi le côté intellectuel. Hein, on peut avoir des raisonnements abstraits, on peut compter, on peut utiliser des symboles, on peut créer. On a une compréhension de la science, de la nature, ça les animaux ne l'ont pas. On a un niveau social et culturel aussi, on peut transmettre le savoir. Alors cette dame, quand elle disait « oui, les animaux font des outils », effectivement, mais avec leur outil, ils vont pas faire un manuel pour la génération d'après. Hein. Ils vont pas améliorer cet outil, ils vont pas former les autres à utiliser cet outil. Chaque fois, ils vont être obligés de leur penser, de repartir de zéro en fait. Moi, j'avais un prof de maths, il disait « dans 40 ans, l'âge de pierre ». Ça voulait dire si pendant 40 ans, on donne pas d'éducation à notre jeunesse, on retourne à l'âge de pierre en fait. Et ça, c'est vraiment spécifique aux humains. On transmet le savoir, on donne le savoir par l'écriture que les animaux n'ont pas non plus. On peut faire de l'art, on peut faire des choses, voilà, une production gratuite, simplement pour la beauté. On a la maîtrise du feu, on a l'agriculture, on a l'informatique, toutes ces choses. Et puis je termine, il y aurait bien d'autres points, je vous mets juste quelques points si voilà, vous voulez discuter avec certaines personnes. On a une conscience morale, le sentiment du bien et du mal, la culpabilité, la responsabilité. L'animal, il peut faire mal, c'est vrai, il peut faire mal. Il se défend pour se nourrir, voilà, pour se protéger, il peut faire mal. Mais l'homme, lui, il a une spécificité, c'est qu'il peut faire le mal. C'est bien différent de l'animal. L'animal, c'est dans un but précis. L'homme, il peut faire le mal pour se faire plaisir. Hein. Donc encore une chose différente. Le libre arbitre. Et puis l'homme, il peut se sacrifier pour des idées, pour des causes, des choses abstraites qu'il croit justes. Tout ça, c'est des spécificités de l'homme. Et puis on va arriver au domaine qui nous intéresse aujourd'hui. C'est le domaine spirituel, en fait. Ça, les scientifiques, ils aiment pas trop en parler, en fait. Celui de la relation avec un monde invisible et supérieur. Il y a le monde visible, mais il y a aussi ce monde invisible auquel l'homme croit. Et aucun animal ne prie. Hein. C'est joli, les petits chats qui font leur prière sur Internet, mais ça n'existe pas. Hein. Ni les gros chiens. Hein. Il n'y a pas d'animaux qui font leur prière. Il n'y a pas d'animaux qui fabriquent des idoles pour les adorer. Pas d'animaux qui enterrent leurs défunts, qui font une cérémonie. Ça aussi, c'est ce domaine spirituel qui est spécifique à l'homme. Donc, La parole de Dieu est très claire là-dessus. Et la chose qu'elle met en lumière dès le début, dans la Genèse, c'est que l'homme est doté de l'esprit. Quand Dieu va créer l'homme, il va souffler dans l'homme, il va lui donner cet esprit. Donc, une grande différence. L'homme n'est pas seulement chair et os, avec une âme, des émotions, une intelligence, une volonté, mais il est un être vivant à part parce que Dieu a soufflé en lui son esprit. Donc l'homme n'est pas un animal évolué, c'est un esprit incarné. Dieu nous a créé esprit. Il nous a d'ailleurs, il est dit dans Genèse 2:7, que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et puis il est dit que Dieu fit l'homme à son image, c'est-à-dire on sait que Dieu est esprit. Et l'homme est avant tout esprit aussi. Donc, voilà, nous ne sommes pas des animaux, c'est la bonne nouvelle du jour. Et donc l'homme a donc été créé à l'image de Dieu, avec son esprit soufflé en lui, mais la Bible nous enseigne que cet esprit, par le péché, a été coupé de sa source. Il est mort en fait. Parce que Adam et Ève ont décidé de croire à quelqu'un d'autre que Dieu, leur esprit a été mort. Il n'y avait plus cette connexion. Dieu a donné l'esprit à l'homme pour entrer en connexion avec lui, pour recevoir la vie. Pas la vie bio, la vie du corps, mais la vie Zoé, la vie en abondance, la vie de celui qui est la vie. L'esprit était destiné à cela pour l'homme, de recevoir, d'avoir cette communion, cette relation avec Dieu. Et quand l'homme a décidé de se mettre sous la soumission du diable, de l'ennemi de Dieu, l'esprit est mort. Hein, qu'on parle souvent du péché originel, vous savez, il n'y avait rien dans, c'est pas la pomme, c'est le fait profond de ce qui s'est passé, c'est de croire quelqu'un d'autre que Dieu et d'accepter de lui obéir. C'est ça qui a cassé la relation. Hein. Donc, Dieu avait prévenu, si tu en manges, tu mourras. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ne sont pas morts tout de suite. Ils sont pas morts tout de suite. Ils ont vécu encore de nombreuses années. Leur corps a continué à vivre. Ils ont encore eu des émotions. Ils ont pu avoir des enfants. Par contre, leur esprit était mort. Coupé de la communion avec Dieu. Ce qu'on appelle la mort spirituelle. C'est un petit peu, je vous ai pris une image là pour vous montrer un peu ça. C'est un peu une rose. Vous avez une rose dans un jardin. Elle est plantée dans le sol. Ses racines sont dans le sol, elle peut prendre les nutriments dont elle a besoin, l'eau, tout ce qu'il faut. Et on coupe cette rose. Ah, cette rose, elle est toujours belle, on la met dans un vase. Mais elle est déjà morte, cette rose. Elle va faner. Parce qu'elle n'est plus reliée à la vie. C'est comme votre portable, tant qu'il est toujours connecté à une source d'alimentation, il va marcher. Puis le jour où vous le débranchez, ben, ça va marcher encore un temps, mais un jour ou l'autre, il va s'arrêter. L'homme n'était plus connecté à la source de vie, à son créateur. Donc la mort est venue, la mort spirituelle, puis la mort physique. Et cette mort spirituelle, elle va être transmise de génération en génération. Toute personne qui naît sur cette terre est morte spirituellement, a besoin de naître de nouveau. Et ça va se transmettre avec le péché. Éphésiens 2:1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, pas malade, pas affaibli, mais mort spirituellement. La mort, c'est, il n'y a plus rien, quoi. Quand quelque chose est mort, il n'y a plus rien à faire, hein. C'est fini. L'esprit de l'homme est mort. Terminé. Un esprit mort ne peut pas percevoir les choses de Dieu, ne peut pas comprendre sa voix, ne peut pas entrer en relation avec lui. La Bible, elle nous dit clairement, 1 Corinthiens 2:14, l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme charnel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà, la situation de l'homme. Mais Dieu avait quand même permis, il a laissé une empreinte de lui dans le cœur de l'homme, hein, pour qu'il puisse reconnaître quand même la bonne direction. Mais en tout cas, il est incapable par lui-même d'avoir une relation avec Dieu. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est indispensable. Cette nouvelle naissance que Jésus va expliquer à Nicodème, il faut que l'homme naisse de nouveau. Et Nicodème, il va se poser au niveau charnel. Ah, il faut que je rentre dans le ventre de ma maman et que je ressorte. Il n'était pas au même niveau que Jésus. Jésus, il a dit non, il faut renaître de l'Esprit de Dieu. Il faut recevoir la vie, Zoé, la vie en abondance, celle qui vient de Dieu. C'est seulement lorsque notre esprit est régénéré que nous pouvons retrouver cette relation vivante et éternel avec notre Père Céleste. Mais, voilà, il y a une question, pour comment l'homme pourrait redonner lui-même vie à son esprit? C'est impossible. C'est impossible. On peut essayer de faire tous les sacrements possibles, les bonnes actions, essayer d'être parfait, donner de l'argent, toutes les œuvres qu'on veut faire. Est-ce que on va pouvoir redonner vie à ce qui est mort? C'est impossible. La religiosité ne redonnera pas la vie à l'esprit, au contraire. Impossible à l'homme de redonner la vie à son esprit. On comprend l'échec de toute religion, mettant toujours l'homme au centre. C'est l'homme qui doit faire. C'est l'homme qui doit être capable de se hisser à la hauteur de Dieu. Mais il ne peut pas, son esprit est mort. C'est fichu. C'est pour ça que toutes les religions vont essayer de dire oui, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, mais encore une fois, c'est quoi qui est flatté? C'est la chair, c'est le côté naturel qui va essayer. Il en est incapable. On ne peut pas par nous-mêmes s'approcher de Dieu. Il faut que nous renaissions de nouveau. Jean 3,6 nous le dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes des êtres charnels, nous ne pouvons pas redonner la vie à l'esprit. Seul celui qui est la vie peut redonner vie à notre esprit. C'est-à-dire que seul Dieu en est capable. Et seul lui peut faire cette chose-là. Parce que Dieu est esprit, mais aussi amour. Il est venu au secours de notre incapacité. Il s'est abaissé, il s'est dépouillé et s'est fait serviteur de tous. Parce qu'il y avait deux problèmes à régler. Il y avait le problème du péché. On ne peut pas être pécheur et recevoir l'Esprit Saint. Il fallait qu'on soit débarrassé de cette condamnation du péché. Et c'est pour ça que la venue de Jésus, elle était absolument nécessaire. Car lui seul, parfait et saint, pouvait porter nos péchés. Pouvait nous délivrer de cette condamnation, de cette culpabilité. Et lui seul pouvait s'offrir en sacrifice, parfait pour nos fautes, pour nous libérer, parce que lui seul est parfait, était le seul homme parfait sur cette terre. Donc il a pu prendre nos péchés. Mais c'est pas arrêté là. C'est pas l'évangile, c'est pas seulement dire « oui, je suis pardonné de tous mes péchés ». L'évangile, c'est la suite aussi. Je suis pardonné, mais je reçois aussi maintenant le Saint-Esprit en moi qui vient habiter, qui vient redonner vie à mon esprit. Et là, c'est la vie de l'esprit qui vient. On va lire Éphésiens 2, 4, 5. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. À la vie. Pas n'importe quelle vie, hein, pas la vie de la terre, mais une vie en abondance comme il nous a promis. Une vie de gloire, une vie dans la présence de Dieu. Jésus nous a redonné cette vie, nous permettant de recevoir le Saint-Esprit. Quand on a accepté Jésus comme Sauveur et comme Seigneur, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en nous. Et il ne faut pas l'oublier. À ce moment précis, quand on dit oui à Christ, oui, je reconnais mes fautes, je reconnais que je ne peux pas me sauver, je reconnais que je suis perdu, et j'accepte ton sacrifice, Seigneur, comme Sauveur et Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment précis, Notre esprit a été transformé. Notre esprit a reçu la vie de Dieu, régénéré, rendu vivant, complètement renouvelé en Christ. Quel miracle! 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cette nouvelle naissance, elle commence d'abord dans notre esprit. Je mets ma main là, mais c'est pas forcément que là l'esprit, hein, vous comprenez. Elle commence d'abord dans l'esprit. D'abord dans l'esprit. Mon esprit a repris vie. Notre esprit n'est plus le même. Il est maintenant pur, juste, parfait aux yeux de Dieu. Il ne peut pas être plus parfait, en fait. Et Corinthiens 6, 17 nous dit, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Notre esprit, comme j'ai dit, est parfait. Il ne va pas grandir, il ne va pas s'améliorer. C'est parfait, c'est fait. Parce qu'il est uni à celui de Christ qui est parfait. Vous vous rendez compte? On a reçu toute la plénitude de Dieu, toute la sainteté de Dieu, par son esprit en nous. Notre esprit n'est plus séparé de Dieu, il n'a plus besoin de le chercher quelque part, il est déjà là, en lui, uni à l'esprit de Christ. Donc, notre esprit n'est plus en quête de Dieu, il est uni à lui. C'est une vérité. Il ne faut pas oublier. Et on va voir la suite. Non, je n'ai pas pris ce verset maintenant, mais on le verra tout à l'heure. C'est là, dans notre esprit, que se trouve maintenant la plénitude de Christ. On n'a pas reçu un petit Dieu, un petit Saint-Esprit. Hein. C'est toute la plénitude de Dieu qu'on reçoit quand on accepte Christ dans notre vie. Il vient, il vit en nous, il donne sa vie, sa sagesse, sa force, sa paix, sa joie, tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette nouvelle vie. Alors, la question qu'on va se poser, mais si alors Dieu habite en moi, je suis le temple du Saint-Esprit, tout est bien, il est parfait, il m'a tout donné, pourquoi je lutte encore ? Pourquoi je suis encore dans des combats? Pourquoi on ressent encore la peur, le doute, la confusion? Pourquoi on chute encore, on fait encore nos bêtises? Et c'est là qu'il est important de faire la différence entre l'esprit et l'âme. La nouvelle naissance s'est passée au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, tout est parfait. Il est uni à celui de Christ. Mais l'âme, qu'est-ce que c'est l'âme? Je vais définir un petit peu. Notre âme, elle a encore besoin d'être transformée. L'âme, c'est ce qui fait notre personnalité. C'est nos pensées, nos émotions, notre volonté. Et tout ça, ça a été façonné avec notre vécu. Tout ce qu'on a vécu depuis notre enfance. Eh bien, notre âme, voilà, elle a appris à vivre. Elle a appris à vivre sans Dieu même. À se débrouiller toute seule parce que voilà, elle voulait pas de Dieu. Et on s'est construit des raisonnements, on s'est construit un caractère, on s'est construit une façon de penser, une façon de réagir, de gérer nos émotions. Et quand on est né de nouveau, notre âme n'a pas été réinitialisée. Hein. On n'a pas fait un format de ces deux points, ça repart tout à zéro et c'est fini. L'âme, elle est toujours là. Elle a encore des blessures. Et encore il y a des choses à corriger. Il y a des choses à changer. Si on ne fait pas le distinguo entre l'esprit et l'âme, on ne peut pas comprendre ça. On se dit, mais c'est quoi ce que je vis là? Je suis schizophrène ou quoi? Non! Paul lui-même a dit, je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne peux pas faire le bien que je veux faire. Donc quand nous sommes nés nouveaux, notre âme n'a pas été réinitialisée, comme je vous dis. Elle garde encore ses anciens réflexes, ses manières de penser d'avant. C'est pour ça que même après notre conversion, nous pouvons encore lutter avec des pensées négatives, des réactions émotionnelles qui viennent du temps d'avant. Imaginez une personne qui a vécu dans un foyer, on lui a jamais dit « je t'aime ». Elle a vécu comme ça. Elle a vécu comme une personne mal aimée. Eh bien, quand elle rencontre Christ, son esprit découvre immédiatement l'amour de Dieu. Et son esprit dit, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Mais son âme dit, je ne peux pas être aimée. Je ne peux pas être aimée. Et là, il y a... C'est dur. C'est dur. On peut avoir aussi vécu dans la misère de nombreuses années. Et puis, on nous apprend, la Bible me dit, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Mais j'ai vécu des choses, moi, avant. Comment je peux croire en ça? L'esprit est bien disposé. Mais l'âme a encore des blessures où il faut guérir. Nous avons tous connu ce genre de tension. Ce n'est pas un manque de foi. C'est simplement la réalité. Notre esprit et notre âme ne sont pas encore parfaitement alignés. Et c'est justement ça qu'on appelle le processus de sanctification. Sanctification, vous voyez souvent ce mot dans la Bible, sanctifier. Sanctifier, c'est quoi? C'est aligner son âme à la pensée de l'esprit. La justification, la nouvelle naissance est automatique, je dirais instantanée quand on accepte Christ. Mais la sanctification, cette âme qui doit progresser à l'image de l'esprit de Dieu, ben ça durera toute notre vie. Hein. Mais on va remporter des combats, on avance de gloire en gloire, bien sûr. Mais on ne doit pas être étonné, en fait. C'est le combat principal. C'est le travail de Dieu, ce qui fait en nous, qui transforme peu à peu notre âme pour qu'elle s'accorde à la vérité de l'esprit régénéré. Romains 8, 6 nous dit « L'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Notre esprit va nous pousser vers la vie et la paix, mais notre âme, encore influencée par l'ancien nous, nous tire parfois dans l'autre sens. Hein? C'est une tension, hein, comme un tir à la corde. L'âme, elle est au milieu, puis... Mais cette tension, elle est normale, en fait. Et c'est même plutôt bon signe, je dirais. C'est plutôt bon signe. Parce que se dire chrétien, et puis... Ne pas vivre ce genre de combat, on peut se poser des questions quand même. Je pense que tous, quand vous avez expérimenté la nouvelle naissance, il y a des choses dans votre compréhension qui ont changé rapidement. Vous n'avez plus vu le monde pareil, de la même manière. Donc ça, c'est le fruit de l'esprit, c'est les choses évidentes qui attestent notre foi en fait, qui attestent que nous sommes nés de nouveau, cette tension. Cette tension, elle ne veut pas dire que nous sommes des mauvais chrétiens, ni que notre salut est en danger. Elle montre simplement que Dieu est en train de renouveler notre âme pour qu'elle ressemble de plus en plus à Jésus. C'est ça le but de Dieu, nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et vous savez, quand on nettoie une plaie, des fois, ça pique. Ça pique un peu, mais quand ça pique, c'est bon signe, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une réaction qui se passe et les microbes s'en vont. Là aussi, s'il y a une tension, c'est bon signe. Dieu est en train d'agir dans nos cœurs, il faut simplement le laisser faire. Beaucoup d'entre nous, chrétiens, vivons ou avons vécu sous le poids de la condamnation. Pourquoi ? Parce que, justement, on confond souvent les luttes de notre âme avec l'état de notre esprit. Ça, c'est... Quand notre âme est troublée, on commence à se dire « Oh, je dois avoir un problème, peut-être que Dieu est dessus de moi, peut-être que je ne suis plus sauvé. » Toutes ces questions-là qui viennent, vous savez, vous les connaissez, hein ? Toutes ces questions qui vont vous ramener à votre état d'avant. Qui ne veut pas vous regarder qui vous êtes par l'esprit en Christ. Hein. Il vous regarde. Regarde ce que tu as fait là encore. Tu crois vraiment que tu es né de nouveau, toi? Mais laisse-moi rire. Hein. Puis Dieu t'a tourné le dos. Puis Dieu t'a puni. Et puis tu resteras comme ça toute ta vie. Point. Notre salut ne dépend pas de l'état de notre âme. Notre salut dépend de l'état de notre esprit. et notre esprit lui a été régénéré et scellé par le Saint-Esprit. Amen. Éphésiens 1, 13, 14. En lui aussi, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'a pas pris une carte de court séjour ou de long séjour, hein, pour venir habiter en nous, hein. On a été scellés du Saint-Esprit. Vous avez déjà scellé un piquet dans du ciment? Quand c'est scellé, ça bouge plus, hein. Ça bouge plus, hein. Saint-Esprit, il est pas là le dimanche en vous, et puis toute la semaine, il est plus là. Puis un jour, il revient, puis un jour, il repart. On a été scellés du Saint-Esprit. Il vit en nous. Il habite en nous. Amen. Et ce sceau, donc, du Saint-Esprit ne se trouve pas dans notre âme, mais dans notre esprit, qui a été uni à l'Esprit de Christ. Notre âme peut être agitée, elle peut être pleine de doutes, de peurs ou de questions, mais notre esprit, lui, il reste toujours solidement ancré en Christ. C'est bon de savoir ça, vous savez. C'est bon de savoir ça. Notre âme, elle peut être ballottée à gauche, à droite, c'est clair. Mais on sait que le Saint-Esprit qui vit en moi, qui est uni à mon esprit, lui ne bouge pas. Il est toujours bien disposé. Il ne peut pas pécher. Il ne peut pas se tromper. Il est parfait. Et il vit en moi. Alors, notre esprit, cette vérité en fait que je viens de proclamer là, elle nous libère de toute condamnation inutile et destructrice. Quand Satan vient nous accuser, il ne peut jamais atteindre notre esprit. Parce que là, il se casserait les dents. Il peut pas. Il sait qu'il peut pas. Par contre, il va viser notre âme. Il va bombarder notre intelligence avec des mensonges. Il va secouer nos émotions avec de la culpabilité, par exemple. Il va affaiblir notre volonté avec du découragement. Mais il ne peut pas toucher ton esprit qui est régénéré parce qu'il est caché avec Christ en Dieu. Il ne peut pas y toucher. C'est fait une fois pour toutes. Colossiens 3:3 nous dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Vous imaginez ? Avec Christ en Dieu. Notre vraie vie, notre identité éternelle ne se trouve pas dans notre âme qui change. Si on se base simplement sur notre âme pour dire qui nous sommes, ça va être compliqué. Mais notre réelle identité, elle est dans notre esprit uni à Christ. C'est pourquoi nous insistons énormément sur notre identité en Christ. Nous devons apprendre à vivre à partir de cette nouvelle identité spirituelle, plutôt qu'à réagir à nos émotions du moment. Qui je suis en Christ? Qui vit en moi? Qu'est-ce que Dieu a fait de moi, en fait? C'est ça qui compte. C'est pas ce que je pense. C'est pas ce que mon âme, mon cœur pense en ce moment. C'est ce que Dieu pense qui compte. Et ce qu'il a fait en moi. Si nous commençons à nous appuyer simplement à ce que pense notre âme, nos sentiments, on ne gagnera pas, hein. On n'avance pas, hein. Mais si on appuie notre identité sur qui je suis en Christ, sur l'esprit qui vit en moi, je peux aller de victoire en victoire, parce que je sais qui je suis, en lui. Quand nous nous sentons indignes, rappelons-nous que notre esprit a été rendu juste en Christ. Quand nous nous sentons faibles, souvenons-nous que la puissance du Saint-Esprit vit en nous. Simplement, rappelons-nous. Vous savez combien il est important de se rappeler les choses de Dieu. On les connaît, mais sans rappeler. Sans rappeler et les proclamer. Le diable, il aime bien aussi se faire passer pour le Saint-Esprit. Ça ne le dérange pas. Il aime bien singer Dieu. Donc il faut reconnaître qui me parle. Parce que des fois, il va prendre des allures, je dirais, très, très religieuses, en fait, pour nous condamner. Faire la différence entre la conviction et la condamnation. C'est vraiment comprendre entre l'âme et l'esprit nous aide à distinguer deux voies très différentes. La conviction du Saint-Esprit et la condamnation de Satan. Alors, je vous ai fait un simple petit tableau, là. Je ne sais pas si on voit bien. La conviction du Saint-Esprit, sa cible, c'est d'abord notre esprit. Le Saint-Esprit va parler à notre esprit. Puis notre esprit va s'adresser à notre âme, d'accord ? Va convaincre notre âme aussi. La condamnation de Satan va tout de suite passer par l'âme. Vous sentez que ça joue pas, que ça arrive par un autre chemin en fait. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais vous sentez il y a quelque chose, il y a pas la vie. La parole semble bonne, ce qui m'est dit est peut-être vrai, mais il y a quelque chose qui joue pas, ça passe par un autre chemin que par celui de l'esprit. Et puis ensuite on peut analyser aussi le sens. Quand le Saint-Esprit va s'adresser à nous, ça va être clair, ça va être spécifique, ça va être dans une situation précise. Il va nous amener à la repentance, il va nous amener à faire quelque chose. Il va pas nous condamner, il va nous donner en même temps la solution, ce que tu dois faire. Il y aura pas comme un doigt qui se pose sur toi pour dire toi tu es comme ça. Contrairement à Satan qui lui va toujours fonctionner de cette manière. Tu es jaloux, tu es coléreux, tu es ceci, tu es cela. Mais il n'y a pas de solution derrière. Hein. Quand vous entendez cette voix-là, tu es puni de Dieu. Tu n'es pas aimé de Dieu. Dieu t'a laissé. Bon, ça, c'est des paroles qui s'embrouillent, on détecte tout de suite. Mais des fois, c'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. Demandons au Saint-Esprit toujours, quand on n'est pas à l'aise avec ce genre de paroles. Est-ce que c'est toi, Seigneur, ou c'est que l'autre qui s'est déguisé? Acceptons de nous mettre devant le Saint-Esprit pour recevoir ce que la parole veut nous dire. Quand le Saint-Esprit nous parle, nous donne une conviction, comme je le disais, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une direction pour nos vies. Soit du pardon, de demander pardon à quelqu'un, soit décider de prendre telle ou telle décision. Par contre, quand ça vient de Satan, il y a du désespoir. Il y a de la honte. On n'a même plus envie d'aller vers Dieu. Il y a de l'apitoiement. Oui, personne ne m'aime. Oui, je vais rester comme ça toute ma vie. C'est ça. Ça, vous pouvez être sûr que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Hein. C'est clair. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour ramener toujours la vie. Toujours la vie et toujours une espérance. Jean 16, 8 nous dit que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La conviction du Saint-Esprit est constructive. Elle nous ramène à Dieu et à la vie. La condamnation de Satan, elle, est destructrice. Elle nous éloigne de Dieu et nous enferme dans la honte. Si ce matin, tu te sens concerné par des paroles que tu as reçues qui ont amené ce genre de résultats, de fruits dans ta vie, ne les garde pas. Demande au Saint-Esprit de te dire qui tu es, comment faire, quel est l'espoir pour moi que tu me donnes. Ne restons pas avec ces paroles accusatrices. C'est sa spécialité, l'accusateur des frères. Il a appelé ainsi, l'accusateur des frères. C'est pourquoi nous devons apprendre à discerner d'où viennent les voix que nous entendons à l'intérieur de nous. Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. C'est pas marqué un peu, de temps en temps, non, c'est aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quand il est dit aucune condamnation, c'est-à-dire qu'on n'est plus sous la culpabilité du péché, mais aussi on n'est plus sous cette condamnation de recommencer nos péchés indéfiniment. Je ne suis plus sous la condamnation. Je suis libre. Cette vérité, elle doit descendre profondément dans notre âme, jusqu'à transformer la manière dont nous nous voyons. En fait, nous ne sommes pas définis par nos échecs, par nos faiblesses ou nos luttes. Nous sommes définis par notre esprit, qui est régénéré, uni à Christ et parfait aux yeux de Dieu. C'est ça ma réelle identité. Hein ? C'est très important parce que ce n'est pas ce que je vais faire qui va définir qui je suis. Vous êtes d'accord ? On peut faire des erreurs, Donc, je fais des erreurs, je me suis trompé. Ah ouais, donc toi, t'es un loser. T'es un perdant. Non. C'est l'identité. C'est quand je sais qui je suis, c'est ça qui va définir ce que je fais, en fait. Je sais au fond de moi que je suis aimé de Dieu. Je sais que je suis ambassadeur de Christ, que j'ai été racheté à prix cher. Je sais que je suis enfant de lumière et que je peux marcher comme un enfant de lumière. C'est parce que je connais mon identité réelle, par mon esprit régénéré en Christ, que je peux avancer dans cette sanctification. Cette compréhension, elle va changer toute notre marche avec Dieu. Au lieu d'essayer sans cesse de prouver notre valeur, c'est-à-dire faire des œuvres, nous pouvons enfin nous reposer dans l'œuvre achevée par Christ. La marche chrétienne, ça commence par le repos, hein. Et ça continue par le repos et ça finit par le repos. Toujours dans le repos de Dieu, dans le repos de ce que Christ a accompli pour nous. Hébreux 10:14 nous l'assure. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Cela veut dire que nous sommes parfaits pour toujours dans notre esprit. C'est fait. C'est accompli. Nous sommes parfaits. C'est pas de l'orgueil, hein. C'est Christ qui l'a accompli pour nous. Par son esprit, je suis parfait. Et progressivement sanctifié dans notre âme. Ces deux réalités existent en nous. Dans notre vie chrétienne. Il y a cette perfection de l'esprit que Christ nous a donnée. Et puis il y a l'âme qui doit encore avancer à l'image de Christ, progressivement. Donc ces deux réalités qui sont là. Dieu nous voit déjà parfaits en Christ, et en même temps, il travaille encore en nous pour que notre âme refaite de plus en plus cette perfection. Voilà, je vous ai mis. Nous ne vivons plus pour prouver notre valeur, amen, mais pour refléter celle que Christ nous a déjà donnée. C'est pour ça qu'on n'a plus rien à prouver, en fait. On est libéré de cette chair de vouloir prouver aux yeux de Dieu, aux yeux des autres, aux yeux de tout le monde, qu'on a de la valeur. Je sais que j'ai de la valeur. Je sais que Christ m'aime, je sais que j'ai été désiré. Donc, sur ce fondement, sur l'amour de Dieu, sur cette grâce, je peux avancer. Quand nous avons cette conviction que notre position en Christ est sécurisé dans notre esprit, nous pouvons honnêtement affronter les imperfections de notre âme sans crainte de perdre notre salut. C'est-à-dire qu'on doit être bien assis, bien stable dans notre salut. Ainsi, quand on va se tromper, on va pouvoir corriger, avancer. Si par contre on se met à douter à chaque erreur, on n'avancera jamais, hein. Et puis, le diable veut nous emmener dans cette spirale du péché. Ah oui, bah tu vois, tu t'es trompé. Ah bah ça recommence. Et puis tu t'en sortiras pas. Et à un moment, la foi n'est plus là. Hein. C'est faire naufrage quant à la foi. C'est là-dedans, dans ce cycle qu'il veut nous emmener. Si nous sommes assis en Christ, et si nous avons cette conviction, je suis sauvé au-delà de tout, je peux avancer tranquillement. Et je peux avancer dans cette marche selon l'esprit. Je termine avec la marche par l'esprit. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Galates 5:16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, des fois, on parle de la marche de l'esprit. On pourrait se dire, ouais, c'est un truc, ouais, ça doit être pour ceux qui sont un peu, qui connaissent bien tout ça. Peut-être qu'on doit vivre des choses surnaturelles. La marche par l'esprit, c'est très simple. Hein. C'est obéir au Saint-Esprit. Je peux pas vous dire plus. Hein. C'est être à l'écoute du Saint-Esprit et lui obéir. C'est tout. C'est tout. Marcher selon l'esprit signifie vivre depuis notre esprit régénéré, permettant à cette dimension spirituelle de diriger notre âme et notre corps. Nous avons eu l'habitude de marcher par nous-mêmes avec notre propre justice, avec nos propres sentiments, avec nos propres convictions. Maintenant, nous sommes devenus chrétiens. C'est plus mes propres jugements qui dirigent, c'est plus ma chair qui dirige. C'est l'esprit maintenant qui vient diriger ma vie. Cette marche n'est pas passive, hein. Elle demande une participation active de notre volonté. Et même là, c'est le Saint-Esprit qui renouvelle notre volonté, simplement. C'est là où on est responsable. Qu'est-ce que je veux écouter ? Je veux continuer à écouter la chair, mes désirs, ou je veux continuer à écouter le Saint-Esprit ? Je veux marcher avec lui maintenant. Nous devons choisir, moment après moment, de nous aligner avec notre esprit plutôt qu'avec des désirs de notre chair. J'ai simplement une image qui me venait quand je préparais ce message. C'était celui d'un pilote de ligne. Vous savez, un pilote de ligne, aussi doué soit-il, il peut avoir 30 ans d'expérience, il peut avoir un superbe avion avec tout l'appareillage qu'il faut. Le pilote de ligne, il doit écouter la tour de contrôle. Il doit se soumettre à la tour de contrôle. S'il ne se soumet pas à la tour de contrôle, ça va mal finir en fait. Pourquoi ? Parce que dans la tour de contrôle, il y a plein d'instruments de mesure. La tour de contrôle, elle connaît l'état des pistes, elle connaît les pistes qui sont libres, elle connaît mieux la météo que le pilote, elle voit tout. Elle voit beaucoup plus de choses que le pilote en lui-même. Et le pilote, il dit « mais moi je vois les choses aussi, je vois que cette piste est libre, je vois que le temps est clair, je peux aller dans cette direction ». Il a besoin, le pilote, de se soumettre à ce que dit la tour de contrôle. Mais il a le choix. Je choisis de faire comme je veux ou je choisis la tour de contrôle. Nous avons besoin de vivre par l'Esprit de Dieu. Car lui sait, lui connaît le chemin, il sait comment il veut agir dans nos vies et comment il veut nous transformer. Mais de l'autre côté, c'est vrai, nous sommes tiraillés. Nous sommes tiraillés par... Voilà ce qu'on faisait avant, mais Dieu nous donne la victoire. Il veut nous transformer, il veut régénérer nos émotions, nos sentiments, toutes ces choses-là. Il est capable de le faire si on le laisse faire. La sanctification, c'est le Saint-Esprit avec notre accord. Vous savez, Dieu est un gentleman, il le fait avec nous. Est-ce que je suis d'accord de me laisser toucher ? Est-ce que je suis d'accord de fonctionner autrement ? Est-ce que je suis d'accord de croire en ta parole ? C'est juste ça qu'il attend de nous. Il n'y a aucune gloire, hein ? On n'a aucune gloire à en tirer, et la chair n'aime pas ça. La chair n'aime pas qu'on parle du Saint-Esprit. Il y a une opposition ce matin, je sais, il y a la chair qui n'aime pas. Elle n'aime pas ça parce qu'elle ne peut pas se glorifier de quoi que ce soit. C'est tout le Saint-Esprit qui fait. Nous, on dit juste oui ou non. C'est tout. Il n'y a aucun orgueil. Il n'y a aucun orgueil à en tirer. C'est le Dieu qui m'a donné la vie de nouveau. Alors cette marche par l'esprit, c'est un entraînement spirituel qui va devenir de plus en plus naturel avec le temps. Peut-être que certains d'entre vous jouent de la musique. Au début, on regarde, on met les doigts sur la guitare, on ne sait pas trop comment on se positionne, il faut faire attention à tout. Et puis au fur et à mesure, ça vient tout seul. Waouh, super! On n'a plus besoin de regarder ses doigts, on joue naturellement. L'écoute et la marche avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Au début, ça demande un effort. Il faut être attentif, il faut que son âme se discipline. Abaisse-toi là, va demander pardon, ça coûte. Et puis après, petit à petit, ça devient de plus en plus naturel. Le Saint-Esprit devient de plus en plus libre en nous. Il y a une joie de l'Esprit aussi qui vient en nous, il y a quelque chose qui se passe de beau, de glorieux. Hein ? Dieu attend notre cœur. Donc notre volonté va s'aligner de plus en plus facilement avec la volonté divine. C'est le processus de la sanctification en action. Je termine avec ce verset, 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. De gloire en gloire, pas d'un seul coup, mais progressivement. Continuellement, notre âme est transformée à l'image de Christ. Alors, on peut prendre un temps de prière. Je vous invite à vous lever. Si ce matin, tu es découragé, si tu te sens tiraillé, Tourne-toi vers le Saint-Esprit. Dieu ne te montre pas du doigt. Dieu ne t'accuse pas. Il attend simplement que tu le laisses aller en profondeur dans ton cœur. Le Saint-Esprit, t'a été scellé du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, nous voulons proclamer tous ensemble que nous ne sommes pas des animaux. Amen. Nous voulons proclamer que nous ne sommes pas des singes. Amen. Nous voulons proclamer que nous sommes des bien-aimés du Seigneur, que nous sommes des citoyens des cieux, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que toute la gloire de Dieu habite en chacun de nous. Nous voulons proclamer, Seigneur, que nous ne sommes plus orphelins, mais que nous sommes aimés du Père. Nous voulons proclamer que nous allons remporter des victoires, que notre vie va avancer, que notre sanctification va avancer par ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Continue ton œuvre dans nos cœurs. Amen.